VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Crise en Libye. L'Union africaine a appelé lundi à la tenue d'une conférence en juillet pour réunir les acteurs de cette crise et réclamer la tenue d'élections présidentielles et législatives en octobre. Cette décision a été prise lors d'un sommet organisé dimanche et lundi dans la capitale éthiopienne. Au Sénégal, la campagne électorale pour la présidentielle du 24 février a connu des violences entre dimanche et lundi qui ont coûté la vie à 3 personnes dans la région de Tabankunda, située au sud-est de Dakar. Elles ont été tuées, ces personnes, dans des affrontements entre des partisans de la coalition au pouvoir et ceux d'Issassal, un candidat de l'opposition à Dakar. Les détails avec notre correspondant Seydina Abagay.
Tout a commencé le dimanche avec une querelle d'affichage entre les militants du Parti de l'Unité et du Rassemblement du candidat Issa Sall et ceux de la coalition Benno Bokk-Yakar du président sortant Macky Sall. Rapidement, cela a dégénéré en affrontement et un jeune militant de la coalition au pouvoir a été mortellement poignardé par la garde rapprochée du candidat Issa Sall. À l'annonce de sa mort, des jeunes de Tambacounda ont manifesté leur mécontentement en mettant en place des barricades. Certains militants de Benno Bokk-Yakar, eux, barrent la route nationale avec leur moto et attaquent le convoi du candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement. Un des chauffeurs du convoi fonce sur les jeunes conducteurs de moto et tue 2 d'entre eux, portant ainsi le bilan à 3 morts. Plusieurs blessés ont aussi été enregistrés, dont 2 graves parmi les journalistes. Le bus de la presse, un minibus et 2 véhicules du convoi du candidat Issa Sall ont été incendiés, tout comme la maison où les journalistes avaient trouvé refuge. Alors que sa garde rapprochée est incriminée, le candidat Issa Sall, lui, accuse l'État du Sénégal d'avoir failli au plan sécuritaire. De son côté, le ministre de l'Intérieur a annoncé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ces violences meurtrières. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
La nouvelle ministre gabonaise de la Défense, nommée fin janvier, prête serment aujourd'hui devant le président Ali Bongo Ondimba à l'ambassade du Gabon au Maroc. Pays où le président gabonais est en convalescence depuis la fin du mois de novembre. Madame Rose Christiane Osuka-Raponda, ancienne maire de Libreville, a été nommée lors d'un remaniement ministériel le 30 janvier, 2 semaines après la prestation de serment des autres membres du gouvernement devant le président Bongo, qui était revenu quelques heures au Gabon pour l'occasion. Au Tchad, la situation sécuritaire dans le nord-est divise les acteurs politiques et la représentation nationale. Le parti au pouvoir multiplie des rencontres pour demander de sanctionner les partis politiques qui font montre de sympathie à l'égard de la rébellion en ayant recours à un article de la loi sur les partis politiques. À N'Djamena, retrouvons notre correspondant André Kodbajinga.
Tout parti politique qui contreviendrait aux dispositions de l'ordonnance 20 portant charte des partis politiques devrait répondre de tous ses actes et agissements.
Mohamed Zen Bada, secrétaire général du MPS parti au pouvoir, il fustige le comportement des partis politiques qui, selon lui, tentent d'utiliser l'incursion rebelle dans la partie nord-est du Tchad pour en faire un calcul politicien. L'ordonnance dont il fait allusion donne l'autorité au ministre de l'administration du territoire de dissoudre à son niveau les partis politiques qui dénoncent la mauvaise gestion du pouvoir.
Le bureau politique national du mouvement patriotique du salut invite le gouvernement à appliquer les pertinentes dispositions de cette ordonnance en procédant à la dissolution des partis politiques subversifs.
Le président du mouvement des patriotes tchadiens pour la République, Brice Mbaye-Mogadbaye, estime que le secrétaire général du MPS fait de la diversion politique. Car, dit-il, Mohamed Zen Bada, en sa qualité du président du cadre national du dialogue politique, est conscient que l'application de cette ordonnance serait un retour au parti unique.
Tous les partis politiques ont rejeté cette ordonnance. C'est pour cette raison que le cadre national du dialogue politique s'est saisi et a mis sur pied un comité de relecture qui a fait des propositions qui ont été transmises au gouvernement. Nous attendons que soit le gouvernement envoie notre proposition en termes de projet de loi ou alors il peut valider sous forme d'ordonnance. Parce que tous les partis politiques l'ont repoussé, y compris le MPS. Donc aujourd'hui, il serait biffé pour revenir dire que l'ordonnance va s'appliquer parce qu'il y a eu une attaque au nord. Non, je crois que c'est un faux fuyant. Il faut peut-être décréter un parti unique que d'appliquer cette ordonnance-là.
Le vice-président de l'Assemblée nationale, Moussa Kadam, a dans un communiqué rendu public le 9 février déploré le comportement de certains leaders politiques qui instrumentalisent l'agression du Tchad par des bandes d'aventuriers à des fins inavouées alors que le comportement patriote est responsable et attendu de tous. Pour le député Benelngar Madotoingé, ce n'est pas le rôle de l'Assemblée nationale de demander à tous les Tchadiens de parler le même langage dans cette situation.
Il y a des gens qui ont des nostalgiques de la dictature, donc ils ont le même réflexe et ils croyaient qu'on devrait se comporter de la même manière, mais ce n'est pas le parti unique. Soyons sérieux. L'Assemblée nationale devrait demander au gouvernement de chercher des voies et moyens de dialogue entre l'opposition militaire, l'opposition démocratique et la société civile. C'est ça le rôle de l'Assemblée nationale, puisque nous sommes le mandataire du peuple.
Tout en s'opposant à toute prise du pouvoir par les armes, ainsi que la confiscation du pouvoir par les armes, la campagne Tournant la page pour l'alternance démocratique en Afrique, section du Tchad, condamne l'ingérence de la France dans le conflit interne au Tchad. André Kodma Dingar Ndjamena, VO Afrique.
En République démocratique du Congo, un témoin clé va être inculpé dans le procès fleuve des assassins présumés de deux experts des Nations Unies en mars 2017 dans le Kasaï. Nous allons formellement inculper Jean Bosco Mukanda, a indiqué le parquet du tribunal militaire à Kananga où se tient le procès depuis juin 2017. La Suédoise d'origine chilienne Zaida Catalan et l'Américain Michael Sharp ont été tués le 12 mars 2017 au Kasaï où ils enquêtaient sur des fosses communes.
Nos infos sur voaafrique.com.
Haïti est de nouveau plongé dans l'incertitude et la tension. Des barricades ont été érigées, paralysant l'activité dans les principales villes. L'exécutif fait la sourde oreille face aux revendications sociales scandées lors des manifestations. Irénée Amanungo.
Des tirs sporadiques ont résonné dans certains quartiers de Port-au-Prince, alors que des blocages routiers étaient rapportés dans plusieurs villes de province. Barricades tenues par des jeunes rançonnant toute personne se risquant à traverser. Incendie de véhicules, dégradation de commerce et même quelques petits pillages. Un climat d'intimidation et de violence dominait dans la capitale en marge des défilés d'opposants. La colère populaire s'intensifie avec l'aggravation des difficultés économiques subies par la majorité pauvres. L'inflation dépasse les 15% depuis 2 ans. La première des revendications des manifestants est de pouvoir manger à leur faim. Les grands axes de Port-au-Prince étaient déserts par peur des violences. La majorité des écoles, commerces et l'administration n'ont pas ouvert leurs portes depuis la large mobilisation de l'opposition le 7 février, marquant les 2 ans du mandat présidentiel de Jovenel Moïse. Des manifestations spontanées de plus faible ampleur ont gagné les principaux centres urbains du pays.
Les négociations entre parlementaires républicains et démocrates ont permis d'aboutir ici aux États-Unis à un accord de principe lundi soir sur le financement de la sécurité aux frontières et éviter ainsi une nouvelle paralysie de l'administration fédérale moins d'un mois après le plus long shutdown de l'histoire des États-Unis. Nous avons trouvé un accord de principe pour le financement de la sécurité jusqu'au 30 septembre, a déclaré aux journalistes le sénateur républicain Richard Shelby, sans préciser si des fonds seraient alloués à la construction du mur réclamé par Donald Trump à la frontière avec le Mexique. Il a ajouté que les équipes parlementaires allaient travailler d'arrache-pied à la mise au point des derniers détails. Le nouveau chef du Pentagone, Patrick Shanahan, est arrivé aujourd'hui à Bagdad pour de délicats entretiens avec les dirigeants sur l'avenir de la présence militaire américaine dans le pays après le retrait de la Syrie voisine. Le ministre de la Défense par intérim, dont c'est la première tournée à l'étranger depuis sa prise de fonction depuis janvier, veut rassurer le gouvernement irakien sur les intentions du Pentagone après que le président américain Donald Trump a déclaré vouloir surveiller l'Iran depuis l'Irak. Un commandant moudjahidine afghan qui avait combattu l'occupation soviétique avant de devenir le premier président du pays après le retrait de l'armée rouge est mort à l'âge de 93 ans, a annoncé aujourd'hui sa famille. Sibgatullah Mojadedi, qui a commandé une faction moudjahidine pendant les 10 années de lutte contre l'armée soviétique, est décédé lundi soir des suites d'une longue maladie dans un hôpital de Kaboul. Les plus hauts représentants de la classe politique de l'Afghanistan se sont rendus aujourd'hui au domicile du défunt pour rendre hommage aux clans respectés des Mojadidi. Une journée de deuil a été décrétée demain mercredi dans tout le pays, jour de funérailles. Et puis, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réaffirmé lundi être prêt à servir d'intermédiaire pour négocier une solution à la crise politique au Venezuela. Le secrétaire général a réaffirmé que son offre de bons offices aux deux parties était toujours valable pour mener des négociations sérieuses afin d'aider le pays à sortir de l'actuelle impasse au bénéfice du peuple du Venezuela, a dit le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque. À tout à l'heure et merci pour votre fidélité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.